venir avec nous. Vous avez la langue bien pendue, bon sang. Nous reprenons numéro 17.
Et nous finissons au numéro 5 de notre série de la semaine, l'Opéra s'amuse, aujourd'hui, la comédie musicale.
Broadway, Broadway, je suis une bête de scène, moi. Ils ne savent pas ici, ils n'ont pas le sens. Ils n'ont personne en France pour faire ça, il n'y a que moi, je suis la seule. Oh, c'est pousser, pousser les scapolettes. Pousser, pousser les scapolettes.
À Sophie Daumier, on aurait quand même pu dire que les sources de la comédie musicale américaine peuvent bien sûr être cherchées dans les genres mixtes d'Europe. Par définition, elle est croisement des genres. Née dans le grand mouvement de développement et d'urbanisation des États-Unis, la comédie musicale est appelée à défendre aussi le croisement des origines qui fait la spécificité du pays. Ce thème apparaît de manière récurrente au grand tournant de son histoire avec Showboat en 1927, West Side Story 30 ans plus tard. Un des grands succès de Broadway aujourd'hui, c'est Hamilton, qui défend pareillement l'idée que les Américains viennent d'un peu partout. L'autre semaine, le vice-président élu, Mike Pence, a eu l'idée de venir applaudir la pièce. Mal lui en a pris. Avant de pouvoir sortir de la salle, il a été apostrophé par les acteurs. Cela sera-t-il encore le cas demain, lui a-t-il été demandé, sous les applaudissements. En réalité, le public de Broadway ne ressemble pas à l'électorat de Trump. Plus féminin, plus diplômé, souvent aisé. La comédie musicale est d'abord new-yorkaise et les budgets qu'elle mobilise impliquent des prix de place assez élevés. Et la France dans tout ça? On a souvent répété qu'elle se tenait sur une autre planète. On peut aussi bien dire que la greffe finit par fonctionner. Sauf que ce qu'elle peut partager dans le système internationalisé des industries culturelles de masse, c'est pas le modèle d'intégration, comme aux États-Unis, c'est le patrimoine révolutionnaire qui court de 1789 à Victor Hugo et qui, à dire le vrai, est assez unique lui aussi.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec nos duettistes, Jean-Claude Dion, bonjour.
Bonjour.
Philippe Quimplevitte. Bonjour. Alors vous avez choisi d'emprunter là, aujourd'hui, pour ce dernier épisode, des noms de grands de la comédie musicale américaine.
Alors donc, en toute modestie, je suis Oscar Hammerstein, célèbre librettiste.
Et moi, pour ma part, Jérôme Kern.
Et nous sommes à Broadway. Alors, le creuset, l'emblème, le lieu du croisement des genres, le lieu du croisement des origines.
Oui, parce que donc la comédie musicale, c'est Broadway, hein, c'est ce quartier théâtral new-yorkais qui a la même importance que les foires du 18e ou que Vienne ou Londres au 19e siècle ou Paris bien sûr. Et une date importante, c'est 1927, la création de Showboat
dans un théâtre qui ouvre aussi à ce moment-là.
Oui, le Ziegfeld Theater, on connaît tous hein, les troupes de girls de Ziegfeld. D'ailleurs, c'était un peu étonnant que ce producteur mette de l'argent dans une œuvre aussi sérieuse, aussi mélancolique, aussi profonde qu'est Showboat, qui marque vraiment le début de la comédie musicale moderne, avec, on le verra, un fond de tragédie raciste, avec ce Showboat, donc ce bateau-théâtre qui parcourt le Mississippi. Mississippi qui est d'ailleurs un personnage important de l'œuvre. Donc une œuvre absolument fondatrice.
La scène se situe dans les années 80, à la fin des années 1880, sur un bateau spectacle. Il y en a encore d'ailleurs en 1925, 1927, des bateaux spectacles sur le Mississippi, comme on dit en France.
il y en a quasiment plus. On raconte que Louis Armstrong a fait des tournées dans ses showboats, mais
c'est à la fois grandiose, le bateau, la roue, le fleuve, les quais, et puis dans un bateau spectacle, il y a des lieux d'intimité aussi.
Oui, il y a des lieux d'intimité, et puis ça va de la Louisiane à Chicago, donc ça traverse des territoires, ça passe par Davenport, etc.
Alors ici, nous sommes à l'embarquement, au tout début, à Natchez, je crois, c'est oui. Un nom à la oui. Châteaubriand, non oui. Le shérif vient dire qu'il y a sur le bateau une passagère en situation irrégulière.
Capitaine Hawke, j'ai d'assez mauvaises nouvelles pour vous. Il y a un cas de métissage à votre bord.
Mais j'ignore ce que
vous savez ce que je veux dire, capitaine. Il s'agit d'une femme noire qui a épousé un blanc. C'est considéré comme un crime dans cet état. L'homme blanc s'appelle Steve Baker. La négresse s'appelle Julie Laverne, née Julie Dozier.
Julie,
votre fiche indique que vous êtes née dans ce comté. Votre mère était une négresse et votre père un blanc. Est-ce vrai?
Oui, c'est vrai.
Allez faire vos paquets.
Prétendriez-vous qu'un homme qui a du sang noir dans les veines est un blanc?
Non, ici, il n'y a pas moyen de passer pour blanc avec une goutte de sang mêlé.
Moi, j'en ai plus d'une goutte, je vous l'affirme. Vous entendez?
Let me go away from the Mississippi. Let me go away from the white man boss. Show me that stream called the River Jordan. That's the old stream that I long to cross.
Oui, aujourd'hui, les Africains-Américains parlent de micro-agressions, pour parler du problème racial, des micro-agressions quotidiennes. Et ce qui est montré ou dévoilé dans cette comédie musicale, c'est une agression majeure. C'est on vire quelqu'un qui est sur scène et on lui intime de partir, on lui dit « la porte, c'est là ». Alors, on est dans les années, on est au tournant du siècle, c'est encore la reconstruction, c'est les lois raciales, avec cette obsession du mélange, du métissage, et l'obstacle de la race. Et le pire obstacle de la race, alors c'est intéressant parce que ça a été créé par des juifs aussi, c'est l'idée qu'on puisse passer inaperçu et finalement qu'on puisse être révélé par quelque chose d'implicite. Et donc, Julie Laverne, elle est quasiment blanche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir du sang noir? Et franchir la ligne, c'est le pire des crimes, qui renvoie au pire des châtiments.
Mais je voudrais qu'on s'arrête un peu à ce qui est une sorte de négro spirituel qu'on a entendu là dans la version filmée de 36, sauf que c'est une fabrication.
Oui, évidemment, mais tout est une fabrication. C'est pas un vrai négro spirituel. En même temps, pour la première fois, il y a un chanteur noir sur une scène de musical, et il y aura un chanteur noir dans le film. Et puis cette chanson va devenir un emblème.
Mais c'est l'œuvre d'un artiste juif qui paraît plus vraisemblable que le réel.
Ah oui, c'est comme ça. Mais ça, c'est l'artifice du spectacle. Être artiste, c'est faire en sorte que l'artifice devienne l'art et devienne le réel lui-même et prennent la place de... C'est la mascarade, mais c'est la mascarade qui relève le vrai visage.
Holman River, on l'a entendu Jean-Claude Dion dans la version filmée de 36, on a entendu auparavant dans la version parlée l'adaptation de George Sidney de 1951. Il y a eu 4 films autour de Showboat.
Oui, parce que toutes les comédies musicales dont on parle aujourd'hui ont trouvé dans le cinéma un vecteur de diffusion, ont fait l'objet à chacune de multiples versions, dont certaines canoniques qui sont d'immenses succès, qui remportent des Oscars, etc. Et donc là, on voit ce lien intime entre l'industrie hollywoodienne du cinéma et le monde des théâtres de Broadway.
Et puis, il y a eu des adaptations internationales. On parlait hier de Maurice Lehmann qui prend en main le Châtelet en 1929, justement, avec une adaptation de Showboat. Mais de la France, il sera question. Tout à l'heure, restons dans le pays central. La Mélodie du Bonheur, 1958, Hammerstein. Et alors là, nous sommes dans une Autriche de fantaisie. On peut peut-être rappeler l'argument, Philippe Kemplowitz.
Bon, l'argument,
ceux qui n'ont pas vu les films sur la famille Trapp,
qui ne s'en souviennent peut-être pas. Il y en a, c'est...
Qui n'a pas vu donc une moniale qui a envie d'aller voir le monde, se retrouve gouvernante d'une famille
pleine d'enfants.
Monoparental, si je puis dire, avec un veuf.
Enfin, le capitaine Trapp, c'est pas le genre monoparental, c'est plutôt le genre décoré de la guerre.
Non, mais monopaternel. Donc, mais c'est un beau parti. Les gosses sont turbulents. Et alors, nous sommes évidemment en 35, la veille de l'Anschluss, et cette gouvernante va initier les enfants à la civilisation, si je puis dire, par la musique. Alors, ce qui est intéressant dans cette Mélodie du Bonheur, c'est que cette Autriche, c'est une Autriche fausse, mais il y a une image, une très grande image de pureté véhiculée par le personnage central, la moniale, il y a ces Alpes autrichiennes, tout est bien. Et c'est la vraie pureté, si je puis dire, qui va se trouver opposé à la fausse pureté du nazisme qui revendique une autre pureté. Et c'est la victoire de la pureté du cœur contre la pureté idéologique, la Mélodie du Bonheur.
Oui, mais après beaucoup d'aventures, parce que là nous sommes plutôt au début, dans le jardin du capitaine Trapp, l'orage, le nazisme sans doute, gronde. Et Julie Andrews, on va aussi entendre dans la version française, Mathé Alteri tente de rassurer les... Ils sont combien les enfants du capitaine Trapp? Les 9 enfants, oui, du capitaine Trapp.
Pourquoi y a-t-il tout ce bruit?
Eh bien,
L'éclair dit quelque chose au tonnerre et le tonnerre lui répond.
L'éclair doit sûrement être fâché.
Oh, pas vraiment.
Alors pourquoi le tonnerre fait-il sa grosse voix? Il me donne envie de pleurer.
Eh bien, lorsque quelque chose m'embête ou bien me fait de la peine, j'essaie de penser à des choses gaies.
À quelle sorte de choses?
Oh, voyons, réfléchissons à ce qui est gai. Des jonquilles, de vertes prairies, ou des moustaches de chaton.
Bonne mitaine et bon feu qui brille, beau cahier quadrillé, cheveux mouillés, c'est l'heure un peu de mes joies quotidiennes. Quand le chien mord, quand l'abeille pique, quand ça marche mal, c'est simple, je pense à mes joies quotidiennes, et tout à leur va. Très bien.
Et ça marche vraiment?
Est-ce que oui, essayez, qu'est-ce que vous aimez?
La marée à l'avion. Oh, Noël, les tout petits lapins, les serpents.
John Coltrane, McCoy Tyner au piano, Elvin Jones à la batterie. C'est le grand quartet de John Coltrane en 1961 dans le disque éponyme My Favorite Things. Alors tous les amateurs de jazz connaissent ça et c'est drôle d'avoir les coller mes choses favorites chantées de manière très straight, comme diraient les amateurs de jazz, et puis Coltrane, enfin, c'est cette chose totalement envoûtante.
C'est votre choix.
Pour Coltrane, My Favorite Thing, il considérait que c'était un negro spiritual. C'était un thème qu'il reprenait continuellement dans le disque. Ça a une longueur incroyable. Il disait qu'il pouvait tout faire avec ça. Alors ça montre aussi que le jazz a des rapports tout à fait intimes à la comédie musicale. Notamment, des standards, des chansons sont devenus des standards de jazz, revisités, repris et je dirais aussi libérés. Parce que ce qui est formidable quand on entend cette chose, incantatoire au piano, c'est, enfin pour moi c'est les années 60, hein, c'est la liberté des années 60.
Et moi j'aimerais juste revenir un petit peu sur la genèse de l'œuvre. D'ailleurs le compositeur, c'est Richard Rodgers, et l'œuvre d'ailleurs qui s'appelle The Sound of Music, le titre original est beaucoup plus intéressant. C'était une histoire vraie. Donc en fait au départ on a les mémoires de Maria von Trapp qui sont un immense best-seller. Ça fait un film allemand, dit Trapp Family, et puis du coup ça donne une idée à Hammerstein de reprendre ce thème pour en faire donc la comédie musicale qui date de 59. Et puis très vite après, on va avoir le film qui a un succès absolument prodigieux, le film de 1965 avec Julie Andrews, on a entendu un extrait, et qui est un film de Robert Wise qui a tourné plusieurs films d'après des comédies musicales, et notamment, et c'est pas la moins célèbre, West Side Story.
Alors on en vient à West Side Story, on est 30 ans après Showboat, on est en 1957, West Side Story. Alors ça, c'est tout à fait nouveau quand même, parce qu'il n'y a pas de happy end, il y a des danses sur des parkings, on est avec des personnages issus de l'univers quotidien.
Alors c'est tout à fait nouveau, et puis en même temps c'est quand même à nouveau ce qu'on a vu tout au long de la semaine, la mise en scène des quartiers populaires. Alors au départ ça devait être les juifs contre les catholiques, finalement ça a un petit peu changé, c'est à l'intérieur du monde catholique les portoricains contre les polonais, et on sait bien sûr que c'est une reprise de Roméo et Juliette adaptée donc par Stephen Sondheim, là encore autre nom très important de la comédie musicale de notre temps, et puis c'est Leonard Bernstein à la musique. Et c'est aussi, bien sûr, j'oubliais, parce que la danse, là, joue un rôle fondamental, c'est peut-être l'élément, le cœur même, c'est une chorégraphie de Jerome Robbins.
George Akiris et Betty Wong.
Credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillacs bloom in America. Industry boom in America.
Wealth in a room. in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
Oui, West Side Story, à la fois une légère critique et puis en même temps un éloge du melting pot américain avec donc cet entre-soi catholique des Polonais contre les Portoricains, avec un absent de marque tout de même par rapport à la date à laquelle ça a été créé. Pas de noir du tout. Donc c'est une guerre de gangs. Une guerre de gangs sans noir, alors que 54-57, on est en plein dans le début du combat pour les droits civiques. Alabama, The Beautiful, c'est la panique. Arkansas, enfin c'est les chiens contre les enfants. L'Arkansas, c'est le moment où on empêche des enfants d'aller à l'école et qu'il y a l'amendement de la Cour suprême qui l'autorise. Donc on est évidemment là au cœur de la comédie musicale, opéra comique. C'est qu'on dit les choses sans les dire, quoi. C'est-à-dire qu'on met le grain de poivre ou la légère gousse d'ail qui est là pour relever le plat, mais on n'est pas au fond des choses.
Donc c'est une Amérique agrandie de façon très favorable, de même que l'Autriche, dans la Mélodie du Bonheur, avait été présentée de manière aussi qu'on peut discuter, parce que la Mélodie du Bonheur n'est pas pour rien dans la conviction qu'ont les Autrichiens, qu'ils ont tous été des antinazis comme les Trappes. Mais si on fait maintenant un parcours géographique et non plus une critique sociale, je voudrais qu'à partir d'un exemple qui date aussi des années 1960, une production de Broadway qui s'externalise, on commence à passer sur le versant français. Cette production de Broadway, elle est signée Joseph Stein et Jerry Block. Elle a connu à Broadway plus de 1000 représentations à partir de 1964. Elle a été transposée à Paris par Robert Manuel en 1969 et vous allez tous la reconnaître.
Il se trouve que Le Violon sur le Toit, Fiddler on the Roof, est un triomphe partout, et en particulier en Amérique où il a été créé. Bien. Il s'agissait d'être extrêmement fidèle, tout en évitant les anglicismes, les américanismes, trouver des équivalences, et je crois que j'ai été extrêmement fidèle. Ça n'est pas une traduction littérale, qui aurait été ridicule, et on aurait dit un film doublé. D'un autre côté, adapté, comme je vous l'ai dit, n'aurait pas été honnête. D'ailleurs, les Américains ne l'auraient pas accepté. C'est pour ça qu'on a mis sur l'affiche version française. Je crois que ça a une certaine noblesse d'être extrêmement fidèle dans le respect total et l'amour-passion d'une œuvre qu'on aime passionnément, aussi bien Madame Popesco, Monsieur de Mallet et moi.
Et Reb Nachum, le mendiant.
La charité, s'il vous plaît. La charité, s'il vous plaît.
Tiens, voilà un copec.
Un copec? La semaine dernière, vous m'avez donné 2 copecs.
J'ai eu une semaine difficile.
Si vous avez eu une semaine difficile, est-ce à moi d'en supporter les conséquences?
Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, moi. Hey, adieu la charrette, tous les jours j'ai riche, moi. Je bâtirai un vrai palais montant jusqu'au ciel sur la place du marché. Des murs plantés bien droits sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. Si j'étais riche, oh, si j'étais riche, moi.
Oui, Yvan Rebroff, 1969, au théâtre Marigny, Ah si j'étais riche, avec Fiddler on the Roof, ou la suite d'un livre de Sholem Aleichem qui s'appelle Tevye Dermulertike, Tevye le laitier. On est au cœur du rêve de tout créateur d'opéra comique, musicien ou librettiste. C'est-à-dire, on part de quelque chose d'extrêmement particulier et on touche à l'universel. Et alors là, le particulier du particulier, c'est un petit shtetl de la zone de résidence avec un père qui veut, chose banale, marier ses filles, qui ne veut pas les marier en même temps. Il y en a une qui épousera un ouvrier, parce qu'il était vraiment souhaité, une autre un révolutionnaire, et la troisième, oh horreur, exogamique, un non-juif. Et tout ça dans un contexte extrêmement traditionnel, où les rôles sont très très bien définis et où la modernité affleure, perce, avec, comme toujours, un événement historique épouvantable qui apparaît. C'est le pogrom de la faim qui disperse la famille. Et à la fin de l'histoire, il y en a un qui va à Jérusalem, l'autre à New York, troisième peut-être à Vienne et l'autre, pourquoi pas à Paris.
Alors pourquoi pas à Paris? C'est ça la question maintenant qu'il faut qu'on pose.
J'ai voulu faire la transition.
Parce que la comédie musicale à Paris, c'est un peu comme faire du violon sur un toit. Alors, est-ce que l'arrivée, la greffe de la comédie musicale, c'est cet énorme succès du violon sur le toit? Mais c'est juste une transposition. Il n'a pas voulu employer le mot adaptation tout à l'heure, Robert Manuel. Est-ce que la greffe, elle vient avec Les Misérables, un peu plus tard? Est-ce que la greffe, elle vient avec Notre-Dame de Paris, beaucoup plus tard?
Alors, Les Misérables, c'est bien en partie une œuvre française, puisque c'est Schoenberg, le musicien, mais c'est quelque chose qui est créé à Londres et qui est finalement un produit de ce haut lieu de la communauté musicale qui est le West End londonien. Et en fait, longtemps, Paris et la France a été une terra incognita pour la communauté musicale, et je crois qu'il faut attendre vraiment le succès de Notre-Dame de Paris pour que, véritablement, la communauté musicale trouve en France un terrain propice.
Mais c'est un terrain patrimonialisé, non?
Alors, ce qu'on remarque, effectivement, on a bien sûr l'arrivée de communautés musicales étrangères, et puis on sait que, par exemple, le Théâtre Mogador a été racheté pour importer des productions type Fantôme de l'Opéra ou La Belle et la Bête, etc., et notamment des communautés musicales Disney. Mais, effectivement, les créateurs français, et donc ils sont de plus en plus nombreux ces dernières années, vont jouer ce filon patrimonial, ce filon littéraire, notamment en allant beaucoup puiser dans la littérature du 19e siècle.
Oui, mais alors Plamondon vous dit « Oh, ben, j'ai remplacé la Cour des Miracles par Les Sans-Papiers ». Quand vous allez voir la dernière adaptation d'un chef-d'œuvre du 19e siècle en date qui s'appelle « Le Rouge et le Noir », quelle première impression avez-vous? C'est au Palace, Philippe Gaplowitz. Ensuite, on entendra l'interprète principal, Côme, dans le rôle de Julien Sorel.
J'ai été emmené par ma fille, Salomé. La première impression, je m'attendais à avoir un public de gamines et de gamins. Et c'est un public d'opéra comique. Première impression, tous âges confondus, toutes conditions confondues. Et il y en a pour tout le monde. La première chose, c'est ça. Autre élément qui conforte la tradition de l'opéra comique, la modernité. Les décors sont en 3D, il y a des panneaux changeants, c'est extrêmement bien fait. Il y a un orchestre de rock formidable, la musique, bon, c'est... Allez, j'en dirai pas grand-chose pour pas déplaire à ma fille, mais bon, c'est ce que c'est. Mais c'est extrêmement bien fait. Et je dirais, plus c'est mauvais, plus c'est fait avec soin.
Dis, reste à ta place. Les acquis des nantis te dépassent. Le lit où tu es né t'interdit de viser plus haut. On a souvent ri de mon audace. La biffe et le moine, quoi que tu fasses. Rampe au lieu d'espérer, tu n'es bon qu'à courber le dos. On est ce qu'on est, tu dis merci et c'est tout. Il faut s'incliner sans s'indigner jusqu'au bout. Soit tu n'es roi, soit tu n'es rien, mais dis-moi, pourquoi ce chemin de croix? Je veux la gloire à mes genoux. Je veux le monde ou rien du tout. Pas les menus plaisirs, pas les petits désirs, les privilèges. Je veux les plaies de l'amour fou. Je veux la corde à votre cou. Pas les menus plaisirs, pas les petits sourires.
Allez, on va pas épiloguer sur les paroles. Ah bah, les élites des privilégiés. Et je veux, moi, je, le monde à mes genoux. C'est pour ça qu'il va déranger l'idéologie dominante sur les réseaux sociaux. Ça manque un peu d'humour, quand même, toutes ces productions patrimoniales françaises.
En effet, cher Jean Aubrin, ça manque un peu d'humour. Et effectivement... Je suis devenu très docte, puisque j'ai toujours joué un peu le rôle du pédant au cours de ces différentes émissions, à travers le périple qu'on a fait, donc à travers le théâtre de la foire, l'opéra comique, l'opérette, la comédie musicale. On a vu quand même que tous ces ouvrages reposaient sur un subtil équilibre entre irrévérence et puis conformisme social, et parfois le curseur était plus d'un côté, plus de l'autre. J'ai un peu l'impression, pour aller dans votre sens, que nos productions contemporaines, peut-être parce qu'elles sont aussi des objets financiers, commerciaux, bien calibrés, sont quand même un peu conformistes et on aimerait peut-être que le côté irrévérencieux revienne un peu plus en force.
Allez, une ou deux recommandations pour finir qui auront le tort, nos auditeurs nous en pardonneront, d'être trop parisienne, Philippe Gimplowitz.
Oh, moi, c'est pas une comédie musicale, c'est une exposition sur The Color Line, puisqu'on a parlé de Showboat, au musée du Quai Branly, qui raconte la ségrégation et l'après-guerre civile aux États-Unis.
Et vous, Jean-Claude?
Ça vous étonnera pas que j'incite tous nos auditeurs à aller voir tous les spectacles offenbachiens qui se montent pour les fêtes un peu partout. Mais notamment, il y en a un peu plus tardif qui sera en février à l'Opéra Comique. L'Opéra Comique qui va rouvrir. Et on est tous impatients et qui rouvre avec le Fantasio d'Offenbach. Un opéra comique de 1872 qui a été un échec total parce que Musset soit adapté par ce juif allemand juste après la défaite, après la commune, c'était un scandale. Donc l'œuvre n'a pas eu la carrière qu'elle méritait.
Et mais avant Offenbach, il y a eu Florimond Hervé, le roi des toquets, et on le joue à Paris à Noël.
Eh bien, merci pour la mémoire d'Hervé de rappeler les chevaliers de la table ronde à l'Athénée.
Avec la compagnie Les Brigands.
Excellente compagnie qui, justement, a remis en valeur tout ce patrimoine musical.
Merci à vous. Cette émission a été réalisée par Stéphane Ronxin. Elle était préparée par Martin Cellier avec, aujourd'hui à la technique, Anne-Laure Cochet.